Chapitre 54. La boîte à musique. Anastasia avait mal dormi. Pour la première fois depuis son arrivée à Corfou, elle se réveilla bien avant l'ève. Dehors, il faisait encore nuit. Elle regarda un moment son amant plongé dans un sommeil paisible, puis finalement elle se leva. Elle se fit couler un bain et s'y prélassa longuement. Elle était tracassée. Pour la première fois, elle avait l'impression que des nuages commençaient à couvrir leur petit paradis grec. La veille au soir, elle avait retrouvé avec bonheur l'Ève à son retour de Genève. Ils avaient dîné dans la grande salle à manger illuminée de dizaines de bougies. Tout était parfait. Pourtant, elle avait eu l'impression que quelque chose n'allait pas. « Tout s'est-il bien passé à Genève ?» avait-elle demandé. « Oui, » avait assuré l'Ève. À la façon dont il avait détourné les yeux en lui répondant, elle avait su qu'il mentait. Elle avait décidé de creuser. « Tu m'as dit que tu avais un rendez-vous à la banque, c'est ça ?»«
Oui. » »«
Avec des clients ?»«
Avec Macaire. Il voulait me voir. »«
Macaire ? Pour quelle raison ?»«
Il m'a demandé de reprendre ma démission. Il dit que mon départ risque de déstabiliser la banque. Il m'a proposé de m'occuper du bureau d'Athènes, de gérer mon portefeuille depuis là-bas. »
« Et tu as refusé, j'espère. »
« J'ai été obligé d'accepter. » Ça avait été leur première dispute à Corfou. Elle avait crié qu'il avait promis de quitter la banque et lui avait répliqué que ça ne changeait rien, qu'il ferait la liaison depuis Athènes.
« Nous étions censés venir à Corfou pour être ensemble, » avait rappelé Anastasia. « On sera ensemble. Ça ne change rien. Une fois par semaine, je ferai l'aller-retour dans la journée à Athènes. J'ai l'étrange impression que tu ne veux pas quitter la banque Ebesner. » Je ne veux simplement pas attirer les soupçons.
Les soupçons ? Quels soupçons ?
Il était resté évasif.
Je veux juste qu'on soit tranquille, loin des ennuis.
Si tu veux qu'on soit tranquille, tu n'as qu'à démissionner. La banque pourra se débrouiller sans toi.
C'est plus compliqué que cela.
Lève, parfois j'ai l'impression que tu me caches quelque chose.
Il avait ri, comme si ce qu'elle disait n'avait aucun sens.
Je ne cache rien du tout, enfin. Que veux-tu que je te cache ? Je dois bien travailler, Anastasia. Tu as largement assez d'argent pour ne plus travailler. Alors c'est peut-être cela que je te cache. Je suis sans doute moins riche que tu ne l'imagines.
En guise de diversion, il l'avait resservi de vin.
Elle savait qu'il mentait. Et ce n'était pas son genre de parler d'argent. Elle lui avait alors fait remarquer. Je te rappelle que tu vivais à l'année dans une suite du plus prestigieux hôtel de Genève.
La suite des Bergs n'était rien à côté de cette maison, avec le personnel, les robes...
L'avait interrompu Anastasia. « Je me fiche de tout ça. Je me fiche de l'argent, je te l'ai toujours dit. Nous pourrions vivre dans une bergerie sans le sou, ça me conviendrait parfaitement. Et puis s'il faut travailler, je travaillerai. Je me ferai engager dans une boutique en ville. Je serai très heureuse. »
L'Ève avait eu un éclat de rire magnifique et avait fait semblant de s'amuser de cette dernière remarque. Il s'était alors levé de table, avait pris Anastasia par la main et l'avait conduite sur la terrasse.
Dans la nuit tiède du printemps, on entendait la mer et les cigales. Au loin, on pouvait voir scintiller les lumières de la ville.
Tout était féerique.
Il l'avait enlacée et elle s'était sentie bien de nouveau. Jusqu'à son réveil, à l'aube. Dans son bain, Anastasia était songeuse. Pourquoi Lev ne parvenait-il pas à couper ses liens avec Genève? Elle était convaincue qu'il lui mentait. Elle était convaincue qu'il lui cachait quelque chose. Le lieutenant Sagamore avait mal dormi. Il s'était spontanément réveillé à l'aube. Il considéra d'abord qu'il était bien trop tôt pour se lever. Il lui restait encore 2 bonnes heures de sommeil. Mais après un quart d'heure passé à rêvasser dans son lit, les yeux fixés au plafond, il quitta discrètement le lit conjugal. Dans la cuisine éteinte de l'appartement familial, Sagamore se fit un café et le but à la fenêtre, observant la rue déserte. Il était tracassé par son enquête. Il repensait à sa discussion avec Christina la veille au soir dans son bureau. Cette dernière, malgré l'accumulation des preuves, lui avait confié. « Je ne crois pas que Jean-Bénédicte Hansen puisse être Tarnogol. » Sagamore avait été surpris par cette réaction.
« Enfin, Christina, entre le masque en silicone et les cheveux retrouvés dedans dont l'ADN est celui de Jean-Bénédicte Hansen, l'hôtel particulier de Tarnogol qui appartient à Hansen, les objets retrouvés là-bas qui appartiennent à Hansen, ou encore le petit déjeuner de caviar, d'œufs et de vodka commandé par Hansen dans sa chambre, que te faut-il de plus ?»«
Effectivement, ce sont des éléments solides, » avait-elle reconnu.
Mais comment Jean-Bénédicte Hansen aurait-il pu être vu en compagnie de Tarnogol s'il l'incarnait ?
Les as-tu régulièrement vus ensemble ? Avait demandé Sagamore.
Christina prit un instant de réflexion.
Non. À vrai dire, avait-elle répondu soudain troublée, je ne les ai jamais vus ensemble.
Sauf le samedi soir du grand week-end dans la salle de bal. Ils étaient côte à côte sur l'estrade, pendant qu'Horace Hansen s'apprêtait à faire l'annonce.
Il avait un complice,
avait affirmé Sagamore qui avait pensé à ce cas de figure.
Quelqu'un qui prenait l'apparence de Tarnogol en enfilant ce visage en silicone pour se montrer aux côtés de Jean-Bénédicte et que celui-ci soit insoupçonnable.
Christina s'était rappelé que sur l'estrade de la salle de bal, au moment de l'annonce, Tarnogol et Jean-Bénédicte étaient restés silencieux pendant qu'Horace prenait le micro. Si Tarnogol n'était qu'un masque, n'importe quel complice aurait effectivement fait l'affaire. Elle était restée néanmoins dubitative.
Je suis certaine que tu trouveras des dizaines d'employés de la banque qui affirmeront avoir vu Jean-Bénédicte Hansen et Tarnogol ensemble. Et puis comment Jean-Bénédicte aurait-il fait pour berner tout le monde pendant les séances du conseil de la banque ?
C'est son complice, justement, qui participait aux séances du conseil de la banque. Il suffisait de prendre un accent de l'Est et surtout de ne pas trop parler.
Christina n'était pas totalement convaincue pour autant.
Je n'ai pas connu Abel et Besner, avait-elle dit. Mais de ce que l'on m'en a raconté, je déduis qu'il n'était pas du genre à se laisser facilement mener en bateau. Tarnogol est une imposture parfaite. Elle exige une intelligence, un talent, une présence d'esprit hors norme. Je ne crois pas que Jean-Bénédicte Hansen en soit capable.
À moins que le génie de Jean-Bénédicte Hansen ait justement été de se faire passer pour beaucoup moins brillant qu'il ne l'était et d'endormir son entourage. C'est là toute la preuve de son talent. Il était absolument insoupçonnable.
Christina avait souscrit à cette remarque.
Est-ce que tu as pu remonter la piste de ce masque ? Avait-elle demandé.
Découvrir son fabricant ?
J'ai essayé, mais sans succès. Les spécialistes que j'ai interrogés dans la région affirment n'avoir jamais rien vu de tel. C'est de la technologie de pointe au niveau du cinéma hollywoodien.
Les doutes de Christina avaient déstabilisé Sagamore.
Ce matin-là, dans sa cuisine, après avoir longuement repensé à leur conversation, il prit une décision qui allait être l'un des tournants de l'enquête.
Il se prépara ensuite pour sa journée de travail, dressa la table du petit déjeuner pour sa femme et leurs deux enfants, qui dormaient encore, et s'en alla rejoindre le siège de la police judiciaire sur le boulevard Karl Vogt. Le lieutenant Sagamore croyait que seul un cercle très limité de policiers était au courant de l'existence de ce fameux sac retrouvé dans la chambre de Jean-Bénédicte Hansen. Il faisait erreur sur ce point.
Macaire et Besner avaient mal dormi. Il était 8h30 ce matin-là, à Colony, lorsqu'il débarqua dans la cuisine de sa maison en robe de chambre, les cheveux en bataille. Arma était en train de faire griller du pain et de refaire des œufs pour la troisième fois. Son patron avait 1h30 de retard sur son programme habituel. Depuis qu'il était président de la banque, il prenait son petit déjeuner à 7h pile tous les matins. Il se présentait toujours dans un magnifique complet 3 pièces de sa garde-robe intégralement renouvelée pour ses nouvelles fonctions. Il buvait un café et mangeait ses œufs avec une tranche de pain complet, pour garder la ligne, tout en parcourant le journal du jour. À 7h20 au plus tard, il quittait la maison pour rejoindre la banque.
« Tout va bien, monsieur ?»
demanda Arma, étonné de voir Macaire se lever si tard.
« Réveillé à l'aube, rendormi, pas entendu mon réveil », résuma Macaire d'un ton bougon en s'installant à table.
Arma lui prépara immédiatement un café serré.
« J'ai hésité à venir frapper à votre chambre »,
dit-elle à Macaire en déposant la tasse fumante devant lui.
« J'aurais dû le faire. À cause de moi, vous êtes en retard à la banque. »«
Ça n'a pas d'importance, » répondit Macaire. Il se passa la main sur le visage. Il était pâle.
« Vous êtes malade, monsieur ?»«
Non, je suis tracassé. »«
Des soucis ?»«
En quelque sorte. »«
À la banque ?»
Macaire ne répondit rien et avala son café. Il était fatigué. Il avait besoin d'une vraie bonne nuit de sommeil.
Malgré ses somnifères, cela faisait 2 mois qu'il se réveillait spontanément tous les matins avant l'aube. Il ouvrait les yeux, saisi par une angoisse qui ne le lâchait plus et l'empêchait de se rendormir. Arma continuait de lui parler, mais il n'écoutait plus. Il avala ses œufs en quelques bouchées et partit s'isoler dans son boudoir. Il avait besoin de réfléchir au calme, mais il n'était au calme nulle part. À la banque, il était constamment dérangé, et à la maison, Arma l'importunait à force de sollicitude. Il s'assit à son pupitre. Face à lui, quelques documents bancaires sans intérêt qu'il devait classer, des photos d'Anastasia,
et une petite boîte à musique miniature. Il s'en saisit d'un geste machinal, avant de la reposer comme si l'objet lui avait brûlé les doigts. Il repensa alors à ce qui s'était passé 2 mois plus tôt, un soir de la mi-février. C'était depuis lors qu'il souffrait de ses crises d'insomnie. Depuis qu'il s'était rendu à l'Opéra de Genève après avoir reçu par courrier un billet pour une représentation du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. En découvrant l'invitation, il avait aussitôt compris. C'était Wagner qui le recontactait. Mi-février, 2 mois après le meurtre de Jean-Bénédicte. L'entracte touchait à sa fin. Une sonnerie se fit entendre. Les spectateurs du Grand Théâtre de Genève regagnèrent rapidement leur place. L'acte 3 du Lac des Cygnes allait commencer. Dans le foyer bientôt désert, 2 hommes étaient assis sur un banc en marbre, côte à côte. « Je croyais que je n'étais plus en service actif, » dit Macaire, « que mes fonctions de président m'exposaient trop. »«
C'est le cas, » dit Wagner. « Je tenais simplement à vous féliciter pour le succès de votre ultime mission pour la P30. Nous voilà débarrassés de Tarnogol et vous êtes président de la banque. »
« Merci », se contenta de répondre Macaire qui ne comprit d'abord pas l'allusion à Tarnogol. Après un bref silence, Wagner dit
« Macaire, il y a une question que je voudrais vous poser, si vous me le permettez. »«
Je vous en prie. »«
Pourquoi avoir tué Jean-Bénédicte Hansen avec une arme à feu? Pourquoi avoir pris un risque pareil ?»
Macaire resta complètement interloqué. « Je n'ai pas tué Jean-Béné, voyons. » Wagner sourit.
À d'autres. Enfin, ce n'était qu'une simple curiosité de ma part. Je me disais que vous auriez pu faire comme pour Horace Hansen. C'était nettement plus discret.
Horace Hansen est mort d'une crise cardiaque, rappela Macaire.
Une crise cardiaque,
répéta Wagner qui semblait trouver cette réponse piquante. Je ne comprends pas où vous voulez en venir, s'agaça alors Macaire.
Ne me servez pas votre numéro de grand naïf, dit Wagner. Je sais que vous êtes très doué pour cacher votre jeu. Vous avez tué Horace Hansen. Vous avez utilisé la fiole de poison, la première fiole que je vous avais remise. La crise cardiaque dans les 12 heures, totalement indétectable, le crime parfait. Vous avez commis sur le père le crime parfait. Par contre, le fils, c'était une boucherie.
Mais enfin, je n'y suis pour rien, Wagner. Si j'avais dû désinguer quelqu'un, ça aurait été Tarnogol. Wagner eut un petit rire.
« Je suis au courant de ça aussi, Macaire. Ne me prenez pas pour un imbécile. »«
Au courant de quoi ?»«
Que votre cousin Jean-Bénédicte était Signor Tarnogol. »«
Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez là ?»«
Allons, Macaire, pas à moi. Je sais que Tarnogol n'a jamais existé. C'était une pure création de Jean-Bénédicte Hansen. C'est lui qui incarnait Tarnogol depuis toujours. »«
Mais qu'est-ce que vous racontez ?» balbutia Macaire. Face à l'incrédulité de son interlocuteur, Wagner comprit alors que ce dernier n'était au courant de rien.
« La police ne vous a rien dit, » s'étonna Wagner. « Il y avait dans la suite de Jean-Bénédicte un visage en silicone, celui de Tarnogol. Tarnogol n'a jamais existé. Tout cela n'était qu'une magistrale imposture. »
Macaire dévisagea Wagner. Il se demanda un instant si ce dernier n'était pas envoyé par la police pour prêcher le faux et lui tirer les vers du nez sur ce qu'il savait sur le meurtre de Jean-Bénédicte. « Je ne crois pas un mot de ce que vous me racontez, Wagner. J'ai passé 15 ans avec Tarnogol, croyez-moi, il a bel et bien existé. Et puis, si ce que vous dites est vrai, pourquoi la police n'aurait-elle pas parlé de tout cela ?» Wagner n'insista pas. Il se leva et tendit une main amicale à Macaire.
« Je ne suis pas venu vous chercher d'époux. Je voulais surtout vous présenter mes excuses pour la façon dont j'ai pu agir avec vous en décembre. Vous avez beaucoup plus de cran que je ne le pensais. Sachez que si vous avez besoin de la P30 un jour, pour quoi que ce soit, nous serons toujours là pour vous. »
À ces mots, Wagner sortit de sa poche un petit paquet qu'il tendit à Macaire. Comme celui-ci se contentait de contempler l'objet, Wagner lui dit
« C'est un cadeau. Ouvrez-le. »
Macaire s'exécuta et défit l'emballage, dévoilant une petite boîte à musique en bois que l'on actionnait en faisant tourner une petite manivelle. Sur le fronton, il était gravé « Le lac des Cygnes, acte 2, scène 10 ».
« Si un jour vous avez besoin de moi, » dit Wagner avant de s'en aller, « faites sonner la boîte à musique, j'accourrai. »
Dans son boudoir, 2 mois plus tard,
Mackay ressassait sa dernière conversation avec Wagner. Depuis ce jour, sa présidence avait un goût amer. La sensation grisante de son pouvoir avait été gâchée. Est-ce que la P30 avait orchestré la mort de Jean-Bénédicte et Horace Hansen? Était-il mêlé, même indirectement, à un terrible complot? Était-il assis sur un trône sanglant? Il ne savait plus que croire. Tout cela le tracassait. Il ne dormait plus du sommeil du juste, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Il regagna sa chambre pour se préparer, puis il quitta la maison pour rejoindre la banque, terriblement en retard. Il inventerait une excuse. Lorsque sa voiture passa le portail de la propriété, il était 9h30. Il était 9h30. Sagamore jugea que c'était une heure décente pour une visite impromptue et appuya sur la sonnette de l'interphone de l'hôtel particulier de la rue des Granges, au cœur de la vieille ville de Genève. Après que le policier eut décliné son identité, la porte cochère en bois massif s'ouvrit et il pénétra dans une cour intérieure, tenant à la main le sac emporté depuis le siège de la police judiciaire. Au bout de la cour, la porte principale de l'hôtel particulier. C'est une employée de maison qui accueillit le lieutenant. Celui-ci, présentant son badge d'inspecteur, répéta ce qu'il avait dit à l'interphone. « Lieutenant Sagamore, brigade criminelle. Je viens voir Charlotte Hansen. » L'employé répondit par un signe respectueux de la tête et entraîna le policier à sa suite. Ils traversèrent un long couloir. Le sol était en marbre blanc, les murs couverts de tissus précieux. Sagamore avait beau être venu à plusieurs reprises chez les Hansen, il était à chaque fois impressionné par la décoration luxueuse de leur intérieur. Le salon dans lequel il fut installé ressemblait à un musée. L'employé lui proposa un thé ou un café, il déclina poliment, puis le laissa seul pour aller prévenir madame. Sagamore était venu trouver Charlotte Hansen pour lui révéler ce qu'il avait découvert à propos de son mari. C'était la décision qu'il avait prise le matin même à l'aube. Il avait considéré que c'était le meilleur moyen pour donner un nouvel élan à l'enquête. Car si c'était bien Jean-Bénédicte qui avait incarné Tarnogold pendant 15 ans, Sagamore envisageait mal qu'il ait pu le faire à l'insu de sa femme. Elle était peut-être même sa complice. Il savait que la réaction de Charlotte Hansen face à cette révélation trahirait la vérité. Il était donc temps d'abattre sa carte maîtresse. La porte du salon s'ouvrit et Charlotte Hansen apparut. Il y avait quelque temps que Sagamore ne l'avait pas revue et elle lui sembla amaigrie. « Bonjour, lieutenant, » dit-elle en serrant vigoureusement la main du policier. « Avez-vous du nouveau sur la mort de mon mari ?» Ils s'assirent dans deux fauteuils face à face, et après un rapide point sur l'enquête, Sagamore décida de se jeter à l'eau. « Madame Hansen, » dit-il d'un ton grave, « je me demande si vous connaissiez vraiment votre mari. »« Comment ça ?» s'inquiéta Charlotte Hansen. Pour toute réponse, Sagamore sortit de son sac le visage en silicone avec lequel il recouvrit le sien. La réaction d'effarement de Charlotte fut à la hauteur de celle de Christina la veille. « Tarnogol !» murmura-t-elle épouvantée. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Sagamore retira le masque. « Nous avons retrouvé ceci dans la chambre d'hôtel de votre mari, au palace de Verbier. Nous avons de bonnes raisons de croire que Tarnogol et lui ne faisaient qu'un, qu'il a inventé et joué ce personnage pendant toutes ces années. » Qu'il a trompé tout le monde, y compris vous, visiblement. Charlotte resta sidérée quelques instants. Puis elle réagit au choc en mettant en doute les affirmations du policier, à qui elle assurera qu'il se trompait. Sagamore lui raconta alors l'hôtel particulier de la rue Saint-Léger, acheté par une société écran, dont le détenteur était Jean-Bénédicte Hansen. Charlotte, qui tombait des nues, ne pouvait s'empêcher de rejeter toutes les allégations. Pour appuyer ses dires, Sagamore lui montra alors les documents bancaires apportés avec lui. Il étala ensuite divers objets contenus dans des sacs en plastique transparents. Des cartes de visite, certaines au nom de Jean-Bénédicte Hansen, d'autres au nom de Signor Tarnogol, une chemise brodée aux initiales JBH, un briquet, des cigares, une bouteille de parfum. « Reconnaissez-vous tout ceci ?»« Oui, » affirma Charlotte Hansen. « C'est le parfum qu'utilisait mon mari, les cigares qu'il fumait, une de ses chemises, son briquet. Je le reconnais, c'est un Dupont auquel il tenait beaucoup. Si vous avez retrouvé ceci dans sa chambre d'hôtel, c'est parfaitement normal. » « Nous avons retrouvé ces objets dans l'hôtel particulier du 10 rue Saint-Léger, » indiqua alors Sagamore. « Madame Hansen,
Cet hôtel particulier se trouve à quelques minutes à pied d'ici. Et la banque est à deux pas également. Vous avouerez que c'est tout de même très pratique. Votre mari pouvait passer d'un lieu à un autre, sous une autre apparence, sans que personne ne se doute de rien. Sa visite terminée, Sagamore retourna à sa voiture banalisée, garée sur la place du Maisel. Sur le siège passager, Christina l'attendait. Elle s'était fait porter malade à la banque le matin même pour pouvoir travailler sur l'enquête. « Alors ?» demanda-t-elle à son collègue qui s'installa à la place du conducteur. « Alors, on attend de voir comment elle réagira, » répondit-il en fixant la porte cochère de l'hôtel particulier des Hansen à quelques dizaines de mètres de là.